Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins, pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose, exceptionnellement cette fois-ci, l'extrait d'un discours, avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 1er novembre 2024, fin de la COP mondiale numéro 16 sur la biodiversité. Qu'est-ce que la COP 16 de la diversité biologique? Pourquoi l'existence d'une telle COP? Quels engagements ont été conclus ce 1er novembre pour la première fois depuis l'existence de cette COP? Quel bilan de ces quelques jours d'échanges entre élus politiques des 195 pays représentés?
Tout est prêt pour mon départ, mon passeport, mon poster de Falcor et mon guide du retard, mon baril de biafine, mon cadre en solaire.
Pour commencer, remontons en 1992, au sommet de la Terre de Rio, où une des conventions désignées pour préserver le vivant et l'avenir de l'humanité portait sur la diversité biologique. Cette convention rassemble aujourd'hui 195 États, dont l'Union européenne en fait partie, qui se réunissent tous les deux ans depuis 1994. Moins connue que la COP sur le climat, celle-ci est pourtant intimement liée sur le plan scientifique. L'environnement et ses conditions influençant sur le vivant et le vivant influençant sur les conditions de l'environnement. En clair, les cycles comme celui du carbone sont intimement liés au vivant qui en est composé et le transforme. Un arbre qui fait de la photosynthèse et se fossilise par exemple. Tout en étant un agent actif dans l'atmosphère pour contribuer à ce qu'on appelle l'effet de serre. Les objectifs pour diminuer le dérèglement climatique et préserver la forêt semble alors très peu éloigné. La nuance apparaît dans la complexité du vivant. Contrairement à un bilan carbone qui représente des chiffres, la diversité biologique fait appel à des connaissances naturalistes, au recensement des espèces, mais également à leur capacité à se maintenir sur cette planète. Si une population, un ensemble d'individus d'une espèce, d'étoiles de mer par exemple, vient à diminuer drastiquement, il se peut qu'elle atteigne un seuil de non-retour, où elle n'aura plus suffisamment d'individus pour se reproduire ou réaliser un brassage génétique nécessaire pour éviter des étoiles de mer déficientes sur le plan physique ou reproductif. S'intéresser à la diversité du vivant veut donc dire prendre le temps de le considérer à plusieurs échelles, de la génétique d'individus à l'habitat dans lequel vivent un ensemble d'espèces en interaction et que l'on nomme grossièrement un écosystème. Pendant que les pays discutent et négocient, les ONG et les experts tentent de les influencer via la publication et la présentation de rapports factuels. C'est ainsi que se passent les COP et la COP 16 sur la biodiversité, qui se tient en Colombie. Trois sujets d'ampleur sont ainsi mis sous les projecteurs. Le premier concerne la protection des zones humides. 140 ONG et scientifiques exhortent, dans un appel commun, les chefs de gouvernement des pays signataires de la Convention à protéger tout particulièrement les zones humides. Celles-ci ne couvrent qu'environ 6% de la surface de la Terre, mais elles abritent 40% de toutes les espèces végétales et animales connues. Experts et ONG conseillent aux pays de réserver des financements pour la conservation et la préservation des zones humides, de se fixer des objectifs nationaux ambitieux spécifiques, de s'attaquer aux causes de leur disparition, agriculture, infrastructure, pollution, d'investir dans des zones humides, urbaines, et d'exploiter les synergies avec la Convention de Ramsar. Vous savez, la première protection des zones humides mise en place à l'échelle mondiale. Le deuxième sujet est l'objectif annoncé à la précédente COP en 2022 à Montréal, à savoir parvenir à protéger 30% des terres et océans d'ici 2030. Pour commencer, qu'est-ce que signifie une aire protégée ? Selon la définition de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, il s'agit d'un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace juridique ou autre pour assurer à long terme la conservation de la nature, des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui sont associées. À ce titre, les aires protégées désignées à ce jour ne remplissent parfois pas les conditions pour accueillir un maximum de biodiversité du territoire. En effet, si celles-ci sont mal localisées ou si la protection n'est pas réellement effective, y a-t-il vraiment lieu de les compter dans le pourcentage des aires protégées ? Les équipes de programme des Nations Unies pour l'environnement et la Commission mondiale des aires protégées de l'Union internationale pour la conservation de la nature attestent d'abord que les données manquent pour mesurer et évaluer l'efficacité des aires protégées. D'après elles, environ 70% des aires marines protégées bénéficient activement de mesures d'encadrement, de surveillance, de protection. De plus, dans le rapportage des pays, moins de 5% des aires terrestres et 1% des aires marines ont fait l'objet d'une évaluation de l'efficacité positive ou non. En clair, des aires protégées d'abord sur le papier, ce qui n'est pas négligeable lors de recours d'ONG, si dégradation il y a, mais qui dans la réalité peine à être reconnue, voire potentiellement respectée. Autre point crucial, la localisation. Dans leur dernier rapport présenté à la COP, on remarque que la majorité des aires protégées ne se recoupent pas avec les zones dites d'importance, pour les oiseaux ou les mammifères marins. Les espaces protégés évitent environ 80% de ces zones, jugées généralement comme les plus riches en biodiversité et les plus cruciales d'un point de vue écosystémique. D'après les estimations de leurs experts sur la base du reportage des différentes autorités nationales, on est autour de 20% de la surface terrestre et 8% de la surface marine qui sont couverts par des aires protégées, soit respectivement un peu plus de la moitié et un peu moins du tiers de l'objectif 30% fixé pour 2030. Auparavant, les pays signataires de la Convention onusienne sur la diversité biologique s'étaient engagés, en 2010, à protéger au moins 17% des terres et 10% des mers avant 2020. L'objectif n'est donc pas rempli. Il faudra encore couvrir une surface de la taille du Brésil et de l'Australie, à terre, et une encore plus grande que l'océan Indien, en mer, pour atteindre la cible de 2030. À l'échelle nationale, 51 pays protègent déjà au moins 30% de leurs terres. Et 31 pays ou territoires ultramarins, comme la Nouvelle-Calédonie, 30% de leur mer. Un dernier détail, et qui n'est pas négligeable. Protéger 30%, certes, ce serait déjà pas mal, mais imaginons que ces petits bouts d'océan ou de parcelles terrestres soient dispersés à travers le monde sans moyen pour ses habitants de circuler d'un lieu à un autre. Cela signifierait que ces populations seraient à terme condamnées, car dans l'impossibilité de migrer ou de se reproduire sans occasionner des dégâts de consanguinité dans leur patrimoine génétique. Si l'image d'un koala sans bouche ou d'une antilope à un seul œil vous semble grotesque, c'est que vous avez compris l'importance de cette connexion entre les aires protégées. Le comité scientifique réuni à l'occasion de la COP s'inquiète donc du manque de connexion ou de connectivité entre ces zones. Seulement 8% de la surface terrestre bénéficie d'une zone de protection relativement contiguë.
Quand t'as le désert à traverser, y a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on verra sous un jour meilleur,
En clôture de la COP, et malgré une présidence colombienne très mobilisée pour financer la protection massive et immédiate de ces zones d'intérêt biologique et écologique, aucun accord d'alimentation d'un nouveau fonds financier pour les aires protégées n'a été trouvé. Le Brésil soutenait la proposition colombienne de créer un nouveau fonds pour la nature, tandis que l'Union européenne, le Japon, le Canada y sont restés fermement opposés. La copie est incomplète, la clôture formelle des travaux de la COP est donc reportée à une date ultérieure. Ce qui signifie qu'aucune règle ambitieuse ou indicateur fiable censé vérifier la réalité de leurs efforts à la COP17 n'ont été adoptés. Fichtre ! Raté ! Pour terminer sur une note positive, cet état des lieux assez mitigé de la COP numéro 16 pour la biodiversité, laissez-moi vous présenter le troisième grand sujet de la COP. Le paiement des dettes contractées par les pays du Nord envers les peuples autochtones et l'exploitation de leurs terres. Les pays ont adopté à Cali l'institution d'un fonds multilatéral censé être abondé par les entreprises faisant du profit avec le génome numérisé de plantes, comme l'arôme de vanille, ou d'animaux des pays en développement. L'efficacité de ce fonds Cali reste incertaine, faute d'obligations claires, mais il répond déjà à une demande historique forte des pays en développement pour payer la dette contractée par le Nord et ses entreprises pharmaceutiques ou de cosmétiques. Un montant indicatif de 0,1% des revenus ou de 1% des bénéfices est suggéré par le texte. Le fonds répartira l'argent récolté, moitié pour les pays, moitié pour les peuples autochtones. Ces derniers ont ainsi acclamé une victoire historique. La création d'un organe permanent pour les représenter au sein de la COP de la diversité biologique, dont l'adoption a été saluée par des acclamations. Une immense fête populaire de la nature dans le centre-ville de Cali a suivi l'ensemble de cette convention, remettant au centre du débat à minima la diversité humaine qui s'offre à nous, encore aujourd'hui. Un doux rêve, voilà qui nous ferait grand bien. Pour changer un peu de nos comptes, je vous invite à tendre la feuille à un de nos penseurs modernes dont les mots résonnent encore aujourd'hui.
On en rira quand on verra sous un jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur.
Discours d'hommage à Hubert Reeves.
On m'a souvent accusé de dévaloriser la philosophie et la religion, en les reléguant dans les domaines du subjectif. Mais à mon avis, le subjectif est bien plus important que l'objectif. J'ai décidé de mettre en œuvre pour moi-même quelques recettes. En premier lieu, se méfier des certitudes définitives et non négociables. Nous assistons, souvent avec tristesse, à la détérioration de la agilité de pensée de personnes dont nous admirons le jugement. Les opinions se radicalisent, la possibilité de se remettre en question s'éclipse, pour donner naissance à des jugements péremptoires et définitifs. J'ai signalé combien les découvertes scientifiques et leurs interprétations ont influencé les visions du monde à différentes époques. Il importe de considérer avec prudence ces interprétations et ces visions du monde. Elles ne sont pas plus solides que la science sur laquelle elles se fondent. En évolution, continuelle, tâtonnante et jamais définitive, les connaissances scientifiques offrent à la philosophie un socle bien fragile.
J'ai entretenu pendant des années une relation amicale avec un chat. Je le regardais, il me regardait. J'avais l'impression que nous partageons la même question. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Je voyais le mystère du monde se refléter dans ses yeux. Là, devant moi, mais hors de portée. Comme celui du chat. Notre cerveau a ses limites. Aussi faut-il nous attendre à être parfois dépassé par la réalité. À chaque fois que cela m'arrive, je pense aux yeux verts de mon chat. Il y a quelques siècles à peine, les cantates de Bach, les quatuors de Mozart et les lieder de Schubert n'existaient pas. Ni les tournesols de Van Gogh, ni les poèmes de Verlaine. Ces créations n'avaient pas encore enrichi nos jours de ces instants de bonheur. Les salles de concert sont mes églises. Les humains sont beaux quand ils chantent.
En élevant l'âme des humains, les créations artistiques sont en mesure de jouer un rôle important dans la neutralisation des instincts guerriers et l'établissement d'une paix mondiale dans les siècles à venir. Toutes ces observations nous invitent à penser que l'amélioration de l'espèce humaine est une réalité, même si elle rencontre des failles et des rechutes.
Quelques siècles de révolution industrielle ont suffi à l'humanité pour être capable de s'aborder elle-même, entraînant dans notre naufrage une fraction importante de la faune et de la flore. Je suis arrivé à la conclusion que le nucléaire est une technique adaptée pour les étoiles, mais pas pour les humains. Mais que dire de l'histoire des hommes ? Une suite de guerres et de carnages. L'homme, fruit ultime de la nature, a su domestiquer les énergies physiques, mais se montre bien impuissant à contrôler sa propre psyché. Sa rationalité lui offre bien peu de protection quand les forces inconscientes le débordent et se transforment en éruption de barbarie à l'échelle planétaire. L'humanité est-elle en mesure de s'adapter à elle-même ? Nous sommes à la fois Shiva, destructeur, et Vishnu, protecteur de la tradition hindouiste.
Nous menons une guerre contre la nature. Si nous la gagnons, nous sommes perdus. Ce matin, une abeille est venue tourner autour de mon bol de céréales. Ma première réaction a été de la chasser. Mais aussitôt, je me suis ravisé. Car il y a une autre façon de vivre cet instant. Il s'agirait de considérer cette abeille non comme une intruse, mais comme plutôt un être qui m'accompagne dans l'existence.
La nature a de nombreux tours dans son sac et beaucoup plus d'imagination que nous. Comme éviter de transmettre aux jeunes, les citoyens de demain, ce pessimiste ambiant et démobilisant. Il existe une thérapie particulièrement efficace. L'éveil au plaisir de vivre. La source de plaisir la plus simple et la plus immédiatement accessible à tous. Et sans doute, le contact avec la nature. Parents, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à vos enfants.
Le grand saule au-dessus de l'étang, les hirondelles sillonnant le ciel et le merle chantant, sur une haute branche partageant avec moi la grande aventure de la vie. Des compagnons de voyage dans ce parcours qui est notre mystérieuse destinée. Ne serait-ce pas là ce que voulait dire l'expression « habiter poétiquement le monde » ?
C'en est fini des grands rassemblements de grenouilles dans les étangs. J'ai la nostalgie de ces sons qui, comme autant de concerts, faisaient chanter la nature.
Les fourmis connaissaient dès leur naissance les tâches qui leur sont assignées. Pas nous. Nous devons en décider par nous-mêmes.
Dans la mesure de nos moyens, il nous revient de nous associer aux efforts immenses qui se poursuivent aujourd'hui pour garder notre maison habitable et agréable. Quel sera notre futur ? À nous de jouer.
On me demande souvent si je suis pessimiste ou optimiste. J'aime répondre avec une citation de Monet. Cet homme disait que l'important n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, mais d'être déterminé.
Sûr, il y a la tendresse humaine, la musique de Mozart et les vins de Bourgogne.
Quel système ouvert ne sommes-nous pas capables encore de voir ? Notre terre et ses habitants sont-ils si complexes qu'on ne saurait les apprécier ? Nombreux sont les artistes qui peignent la beauté du monde, mais je vous propose, prochainement, d'aller vous immerger dans les œuvres de l'un d'entre eux. À partir du 10 décembre, le Musée de la Chasse et de la Nature consacre une grande exposition monographique à Eddy Dubien. Eddy Dubien, artiste autodidacte français né en 1963, est connu pour ses œuvres poétiques qui explorent des thèmes liés à l'identité, à l'enfance et à la relation entre l'humain et la nature. Dans ses œuvres, enfants au regard mélancolique, animaux souvent fardés et végétaux développent les relations d'échange, de coopération, de métamorphose et certainement de consolation. Car si l'humain est enfant du hasard, qui sait ce que la loterie de la vie saura encore sortir de son farfelu capiot.
Comme ça, afflamant gentiment, n'allez jamais trop vite en un mot simplement pour revoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour ne viendra se blottir dans vos bois. Tout doux, tout doux, tout doucement, toujours tout doux, tout doucement.
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à un passionné du vivant avec cette question d'actu.
Prépeint des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.